Cette émission à voix haute est consacrée aux langues, à toutes les langues. Une émission collective pour une langue commune, pour délier les langues. Nous y entendrons la langue de Molière, ma langue maternelle, peut-être la langue de Shakespeare, apprise en première langue ou en deuxième langue, en langue vivante et non en langue morte. Nous n'entendrons pas de la langue des signes, parce qu'à la radio c'est trop compliqué, pas de langue de bois non plus, si possible, ni langue de vipère, ni langue de pute, oh, ma langue a fourché. Je veux parler de ces mauvaises langues qui ont la langue bien pendue, qui n'ont pas la langue dans leur poche et qui devraient tenir leur langue, comme les langues de belle-mère, celle qui devrait tourner 7 fois la langue dans sa bouche, ou donner sa langue au chat. Pour cela, il faut tirer la langue, pour voir ce qu'on a au bout de la langue. Peut-être une langue pâteuse ou chargée. La langue, un organe musculeux mobile de 17 muscles, percevant 6 saveurs, au menu langue de bœuf, langue d'oiseau et langue de chat, parfum ylang ylang. Reste la langue sifflée, la langue des oiseaux, s'amusant de l'homophonie. Enfin, on peut avoir un cheveu sur la langue, ou l'avoir au bout de la langue, ou avoir perdu sa langue. Bonne écoute de cette émission collective à voix haute sur le thème des langues, vous l'avez compris. Un rendez-vous radiophonique à plusieurs. Nous vous invitons aussi à notre prochaine fête de la radio qui se déroulera ce samedi 30 novembre au Créa à partir de 16h. De la radio hors studio à la rencontre des uns et des autres, comme pour chaque fête de la musique aussi, si chère à Jack Lang.
Et on commence sans attendre avec Dominique qui est dans nos studios et il est accompagné d'Abdelaziz, de Sophia et d'Alex que vous venez d'entendre. Et Dominique, tu nous proposes un texte de ta main, il me semble.
En effet. Donc bonjour. Aujourd'hui, les devoirs, c'est sur la langue. Avant tout, pour certains, avant le charme de la découverte d'accents, de phonèmes, de locutions, auxquels nous avons tous accès aujourd'hui grâce aux internet et traducteurs Google. Avant cela, donc, la langue est une ligne de démarcation. Démarcation entre culture, population, mode de vie plus ou moins commun. À part dans nos sociétés modernes, où les opposés, traders citadins et paysans exploités, parlent à peu près le même langage. Et non, je ne ferai pas de publicité pour le film du dernier trappeur pseudo Tisserand, avec comme acteur notamment l'ancien chanteur sportif, ou l'inverse, qui a eu droit à une grande scène gratuite payée par FH ou par la mairie, il n'y a pas si longtemps à la maladrerie. À la belle époque moyenâgeuse, c'était le côté du Tarn réservé aux malades, aux lépreux, soumis aux inondations, et dont, heureusement, petit Jérémy et les grands ont profité en première partie. De la scène, pas des maladies. À part lui et son éternel sourire télévisuel, le film est pas si mal d'ailleurs. Yannick, on t'embrasse. Depuis que l'homme est femme, c'est une arrière traduction de nos origines, selon la Bible et interprétée par moi, on constate que la langue a, entre autres, toujours été un outil de pouvoir et de colonisation. Aïe, le vilain mot. Ma maman, puisse-t-elle vivre encore longtemps, a grandi dans le nord Aveyron, à la limite du plateau de l'Aubrac. Elle a connu les étés cuisants et les hivers givrants. Les cires et les congères et les retournements météorologiques dignes de scénarios catastrophes de films d'horreur. D'un instant à l'autre, tu passes du soleil au brouillard opaque à couper au couteau, ponctué de ci, de là, par l'ombre d'une vache qui dépasse. Elle est couchée, elle dépasse. Ça, on l'a pas beaucoup sur le Larzac, la vache majestueuse. Et les phares ronds de la deux chevaux conduite par mon grand-oncle, vieil apiculteur original, que j'ai pas connu, qui louchait et ne tenait la route que la nuit dans la tourmente. La deux chevaux donc sillonnaient la campagne pour les retrouver, elle et ses frères et sœurs perdus qu'ils étaient, réfugiés dans un bosquet, derrière une congère, ou dans un buron moitié écroulé. Peut-être j'exagère. Elle me disait qu'à l'époque, à l'école, courant des années 60, petite école rurale, pas d'enseignement occitan, et famille progressiste dans l'air du temps, on lui tapait sur les doigts quand elle parlait patois. Ça incite pas à l'apprentissage, mais la résistance locale a fait long feu. Quoique sans eux. Mais j'ai un affreux doute sur l'expression « faire long feu ». Ma fille apprend l'occitan au lycée, c'est pas pour ça qu'elle pratique. Bref, tout ça pour dire que sa version de l'histoire aurait pu être tout autre si elle avait été contée en occitan. Sur l'occitan, justement, une citation de Jean Sibyl, Université Paris 8, qui dit que, au Moyen-Âge, l'occitan est largement utilisé à l'écrit. L'édit de Villers-Cotterêts en 1539 François Ier, marque l'avènement du français dans la vie publique au moment même où l'occitan est sur le point de supplanter définitivement le latin comme langue écrite usuelle. Pour faciliter la bonne compréhension des actes de justice, mais aussi pour affermir le pouvoir monarchique, elle impose qu'il soit rédigé en langue maternelle française, en langage maternel français et non autrement. Et c'est la scolarisation massive dès la fin du 19e qui imposera le français comme langue de communication et conduira jusqu'à l'après-Seconde Guerre mondiale à interrompre la transmission familiale de la langue. En contrepoint se développe l'action des mouvements culturels et littéraires pour la promotion de ce patrimoine. Citation d'une émission entendue sur cette antenne. Au 19e, les hussards noirs de la 3e République dépatoisaient les campagnes. Alors ça, c'est illustré par un film avec Alexandra Lamy, où l'institutrice qu'elle joue galère à mettre en place l'école obligatoire en France. Jetons pas mémé dans les orties non plus. L'enseignement obligatoire, c'est pas mal, mais c'était aussi la perte à moyen terme d'une culture. Ici l'occitan, là le breton, et puis toutes les autres. Mais elle a fait long feu, et je suis toujours pas sûr de l'expression. On notera également que la langue officielle dans l'ancien empire colonial, en dehors de l'Asie, c'est le français, qui cohabite avec les créoles, l'arabe, le wolof, le swahili et tous les autres. L'administration et l'école sont en français, parfois bilingues. Le bon vieux temps des colonies. Dans ma jeunesse studieuse en LV1, j'étais bon élève. Des fois, il m'arrivait de rêver en allemand. J'aimais bien parce qu'on rêve pas pareil si on met le verbe à la fin dans la phrase. Même avec un accent du nord Aveyron. Seit dem habe ich viel Vokabel vergessen. À toi, Sophia.
Merci, Dominique. Alors, moi, j'ai un extrait d'un livre qui s'appelle « Et ma langue se mit à danser » de Isiaka Anam. C'est un roman autobiographique où elle raconte sa vie d'immigrée en France. Et à un moment où elle maîtrise pas encore complètement sa langue maternelle et elle apprend le français. Donc, elle décrit au fil des pages ce sentiment d'être partagée entre deux langues. Et je vais vous lire un court extrait plutôt du début du livre. J'ai toujours eu le sentiment de ne pas avoir de langue partageable. Entre deux langues, la maternelle qui au fil des années commence progressivement à m'échapper. Et la seconde, que je précise nuance, explore toujours plus au gré du temps et des mots posés sur des feuilles sans cesse. Ma langue intime flotte quelque part entre les deux, empruntant les mots de l'une, l'accent et l'enracinement de l'autre. Une langue à part, c'est un peu un monde rien qu'à soi. Peut-être est-ce pour ça que je n'ai que rarement trouvé une langue commune avec d'autres ou avec un autre. Peut-être qu'entrer profondément dans la langue de l'autre, c'est risquer de voir disparaître sa langue à soi, celle qui résonne dans notre tête et nous rappelle qui on est. Peut-être n'y a-t-il rien de plus affolant que de voir disparaître sa langue. C'est perdre un chez-soi. Peut-être est-ce cela, être seul avec sa langue. Je m'interroge encore sur l'exil. N'est-ce pas seulement une manière de se retrouver pour toujours à côté de soi? Voilà, c'était un extrait donc de « Et ma langue se mit à danser » de Isiaka Anam aux éditions de La Cheminante. Et puis je laisse sur ces mots la parole à Abdelaziz.
Merci.
Salut.
Salut, merci. Moi, il y a un petit texte, il parle de mon parcours et de la vie de l'immigration générale. Je suis arrivé en France il y a 1 an et 3 mois avec l'espoir de trouver une vie meilleure. J'ai quitté mon pays parce que je ne pouvais plus vivre. J'ai laissé derrière moi ma famille, mes amis, tout ce que je connaissais. Au début, c'était très difficile, je me sentais seul, perdu, et j'avais peur de l'avenir. La langue était un gros problème. Je ne comprenais pas bien le français, et cela rendait tout plus compliqué. Mais je n'ai pas abandonné. Chaque jour, j'ai essayé d'apprendre un peu plus. Et petit à petit, j'ai commencé à parler. Faire des démarches était difficile. Comprendre la société, et tout était nouveau pour moi. Parfois, j'ai voulu tout abandonner. Mais je savais que je ne pouvais pas retourner en arrière, n'était pas une option. Aujourd'hui, la vie était encore difficile. Mais je suis fier d'avoir ton bon. Je ne suis pas encore là où je veux être, mais je continue à m'abattre chaque jour. Je sais que le chemin sera long, mais je ne pardonnerai jamais. La vie d'un immigrant peut être très difficile. Quand on quitte son pays, on ne laisse derrière soi sa famille, ses amis et tout ce qui est familier. Dans le nouveau pays, il faut s'adapter à une nouvelle culture. Et souvent, apprendre une nouvelle langue. Cela peut être très stressant. De plus, trouver un emploi peut être compliqué. Parfois, les immigrants n'ont pas leur diplôme reconnu et doivent commencer à travailler dans une job moins qualifiée. Cela peut être un sursis de frustration. Loigné de leur famille, le manque de soutien social rend la vie encore plus difficile. Malgré tout cela, beaucoup d'immigrants sont courageux et déterminés à construire une nouvelle vie. Ils s'apportent aussi une richesse culturelle de langue et à leur nouveau pays. حياه المهاجرين قد تكون صعبه جدا عندما يغادر الشخص بلده يترك وراه عائلته واصدقائه وكل ما هو مألوف في البلد الجديد يجب التكيف مع ثقافه جديده واحيانا تعلم لغه جديده وهذا يمكن ان يكون مرهقا جدا واحيانا قد يكون العثور على عمل صعب جدا احيانا لا تعترف الدول الجديده بالشهادات التي حصل عليها المهاجرين مما يضطرهم للعمل في وظائف اقل تاهيلا هذا يمكن أن يكون مصدر إحباط كبير قد يشعر المهاجرين بالوحدة والعزلة البعد عن الأسرة ونقص الدعم الاجتماعي يجعل الحياة أكثر صعوبة ومع كل ذلك العديد من المهاجرين يتحلون بالشجاعة والعزيمة لبناء حياة جديدة كما أنهم يضيفون ثراء ثقافيا ولغويا وأفكارا جديدة إلى بلادهم الجديدة شكرا جزيلا مساء طيبا.
Merci beaucoup Abdelaziz, Sophia, Dominique et Alex. C'est la fin de cette première partie de À voix haute consacrée aux langues. On va faire une première pause musicale avec Père du Talang, justement. Un morceau de la Caravane Passe avec Rachid Taha. C'est un remix de S.O.A.P.
Ça c'est une chanson immigrée de dynastie nomade et made in nowhere. Avec un air déraciné, je suis de là où je suis né, sans châtel. Moi je débarque au village sin prétention, et ça fait parler Jacques T, les autochtones. Tout le monde veut savoir si mon nom est personne. J'ai l'accent du métèque et la tête qui questionne. Qu'est-ce qui se passe étranger, t'as perdu ta langue. Ouais, je préfère la paumer plutôt que me la faire pendre ailleurs. M'envoyer en l'air, sifflant l'air, migrateur, le surnaturel, je suis qu'un alien. I lost my tongue, change my song, getting stranger. Change my soul, I'm getting stranger. I lost my accent, feeling absent, fled my chaser. I lost my tongue, change my soul. Cette fois pâteuse et distraite, ma langue de pute depuis la joue discrète. Partie en voyage au monde polyglotte, elle trafique les messages et joue les interlopes. Slang, patois, argot des putas madre, tout lexique cosmopolite, bayonnais. Mon javanais ayant pas très bien tourné, j'ai donc dû abandonner ma langue au chaboté.
كل إنسان يحب الجنة سافر يسافر ويتهنى كل إنسان يحب الحرية كل إنسان كل إنسان كل إنسان يحب يشوف يشوف السعادة كل إنسان يحب ينسى ينسى تاني العبودية
I lost my tone and changed my song and getting stranger I lost my tone and changed my
my soul and getting stranger. I lost my accent, feeling absent, fled my chaser. I lost my tongue and changed my song entire.
C'était le morceau Perdu ta langue de la Caravane Passe avec Rachita, remixé par SOAP. Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Larzac et de l'émission À Voix Haute consacrée aux langues. Et on retrouve à nouveau Sophia.
Oui, je vais vous lire un deuxième extrait du texte de Isiaka Anam et ma langue se mit à danser. À une époque lointaine, une femme qu'on appelait Nama avait décidé un jour d'automne de partir à la recherche de la langue de son enfant. La petite ne parlait pas alors plus depuis bien longtemps déjà. C'était arrivé un jour, sans que personne ne sache pourquoi. Elle avait cessé de parler. C'est d'abord sa sœur, la plus proche, qui s'en était rendue compte. Après s'en être étonnée, puis inquiétée, chacun dans la famille avait fini par se faire à cette idée. On s'y était habitué. Elle était devenue la petite, au large front, dont la langue s'était perdue. La langue, la seule qui permettait de parler à son père, à sa mère, à ses sœurs, elle l'avait perdue. Elle avait donc fini par devenir une étrangère dans sa propre famille, celle qu'on regardait sans plus pouvoir lui parler. C'est après des années dans ce lourd silence que Nama avait fini par partir à la recherche de la langue de son enfant. Car ce qui se perd l'est pour être retrouvé. Après plusieurs jours et nuits d'une marche qui semblait sans fin, Nama avait réussi à apercevoir au loin la langue dans le repli de la roche sur le coin d'un chemin escarpé qui faisait face à l'océan. En se rapprochant, Nama avait pu reconnaître la langue de son enfant, rouge, un peu abîmée, mais encore entière. Elle l'a pris avec soin dans ses mains. Après avoir passé un moment comme ça auprès d'elle, Nama finit par lui demander « Pourquoi es-tu partie la langue ?» Après un long silence qui laissait penser que jamais on l'entendrait, doucement, la langue se mit à parler. « S'il fallait que je te la raconte, cette histoire serait sans fin. Elle commence avant moi, avant toi, au temps où les hommes se sont mis à voyager dans le monde. C'est l'histoire des murs qui se construisent entre eux, et les enfants qu'ils mettent au monde loin de chez eux. Mon histoire est la même que celle de la langue de beaucoup de ces enfants. Je suis partie car un jour la honte est arrivée. La honte de ne pas me sentir à la hauteur de la langue de mes parents. La honte de voir que déjà je ne savais plus très bien cheminer dans les mots et dans la musique de votre langue. La honte de savoir que vous alliez devoir découvrir bientôt que la langue de vos filles et vos fils ne pourrait plus jamais rencontrer celle de vos parents. La honte d'être bientôt l'émissaire de ce message douloureux. Une ligne s'est tracée définitivement entre la langue du pays qui accueillit votre venue au monde et celle qui sera plus tard la langue unique de vos enfants et vos petits-enfants. Rouge de honte que vous entendiez par sa bouche que votre fille devenait une petite du monde en blanc, bientôt peut-être totalement étrangère à la couleur de votre monde en noir. Alors j'ai préféré me taire plutôt que de porter ce message trop lourd. J'ai choisi de porter le silence plutôt que ces notes honteuses pour vous, pour vos parents et pour les parents de vos parents. C'est ainsi que je me suis perdue. C'est ainsi que se sont perdues les langues d'autres enfants égarés entre ces deux terres. Nous nous sommes retrouvés ensemble dans le monde des enfants du silence. C'est comme ça que certains de vos fils et vos filles ont continué à vivre, grandir, aimer ou haïr, privés de leur langue et de leur voix. C'est ainsi que la langue s'exprima avant de se taire à nouveau. C'est ainsi que Nama comprit, grâce à ce silence, qui avait enfin pu parler. Voilà pour l'extrait donc de « Et ma langue se mit à danser ». Et je laisse maintenant la parole à Marie-Angèle.
Alors, je vais vous lire un texte de mon cru. Arrivé sur la place, j'apostrophais n'importe quel individu pour demander l'heure, puis je m'installais à la terrasse d'une brasserie pour demander un café. Après avoir adressé quelques mots à mon voisin, je me remis en marche jusqu'à la résidence d'un ami. Là, je conversais avec lui de choses tout à fait banales. Voyez comme la langue peut voyager, dire être bien pendu. En revenant vers mon logis, je n'oubliais pas de faire un petit tour par la pâtisserie. Là, mes papilles gustatives se mirent en éveil. Puis, je rentrai chez moi et ma langue se tut.
Merci. Alors moi, j'ai encore préparé quelque chose. J'ai beaucoup de choses à dire sur les langues. Et du coup, je voulais vous proposer de découvrir et deviner des mots dans plusieurs langues qu'on définit comme intraduisibles, parce que ils expriment des concepts très propres à une langue qui sont du coup propres à une culture et qui pourraient être traduits. Bah, des fois, c'est des grands tournures de mots. Alors, le premier, ça vient du danois et c'est hygge. Je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais je pense que c'est à peu près ça. Et c'est un mot qui a fait un peu le tour, on le voit un peu plus ces derniers temps. C'est un concept qui est un peu apparu ces derniers temps. Vous l'avez déjà entendu ?
Comment tu l'écris ?
H-Y-G-G-E. Hygge.
C'est une manière de vivre ?
Oui. Ça, ouais.
C'est un art de vivre ?
C'est un art de vivre qui permet de rester positif. Moi, je l'ai vu souvent en relation aux hivers, en fait, aux longs hivers de Danemark. Il faut savoir profiter de la vie et des petits bonheurs du quotidien.
Ça veut dire soleil, en fait.
ça peut se traduire peut-être comme ça. Mais du coup, j'ai vu que au début, ça voulait simplement dire penser, mais que c'est au 19e siècle que ce mot prend ce sens-là. Parce que c'est une période difficile pour le Danemark, parce que l'Empire s'émiette. Et donc, dans ce contexte de défaite militaire, ce mot prend la signification d'être en sécurité, être à l'abri du monde et pouvoir baisser la garde. Et donc, c'est une sorte de stratégie de survie.
Une pensée positive.
Voilà, c'est ça. Et j'ai appris aussi qu'il y a un institut de recherche sur le bonheur au Danemark. On continue avec un deuxième mot, si vous voulez.
Oh oui, oh oui.
Alors ça vient toujours du Nord, c'est du finlandais. Alors encore une fois, je ne suis pas sûre de le dire correctement. C'est kalsarikennit. Ça, c'est plus... c'est peut-être moins connu. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose.
Nein.
Alors, c'est très précis.
Est-ce que c'est un rapport avec la viande ?
Non.
Non.
Mais
non.
Avec, disons, un péché. Enfin,
la gourmandise, alors ?
Oui, ça s'approche.
L'envie. Redis-moi le mot, s'il te plaît.
Kalsalkennit.
Kalsalkennit. Ouais.
Ça a à voir avec l'alcool.
Ah, l'alcoolisme ?
C'est un type particulier d'alcoolisme.
Ah. L'excès, le...
C'est, ouais, alors c'est le fait de trop boire, en fait, de se saouler.
Ouais.
Mais encore une fois, c'est très précis. Est-ce que vous pouvez deviner ? Qu'est-ce qu'ils font les Finlandais avec l'alcool ?
Ils boivent beaucoup très vite.
ils boivent beaucoup.
Cul sec, non.
Non.
C'est trop long.
Ils boivent beaucoup, tout seuls, chez eux.
Le matin, à jeun.
Non, presque en sous-vêtements et sans avoir l'intention de sortir et tout ça c'est
un mot piège.
C'est le fait de se saouler tout seul chez soi en sous-vêtements sans avoir l'intention de sortir.
Ça me fait penser au film Drunk où ils expérimentent l'étude qui dirait qu'avec un certain degré d'alcool dans le sang tout le temps, la vie est belle. Et
oui.
Puis voilà.
Puis
et
ça
c'est,
gars,
c'est un film du Nord, donc. Et je crois qu'il y en a un qui a essayé de, qui a fini par boire tout seul chez lui.
Tout nu.
sans avoir l'intention de sortir.
Non, non, un sous-vêtement, on a dit Dominique.
Ouais. Bon.
Oui. Eh bien, moi, j'avais vu ce mot sur une carte postale à Berlin, parce qu'il y avait plein de cartes postales avec des mots un peu bizarres comme ça. Et c'était avant le Covid, mais j'ai vu que pendant le Covid, du coup, ce mot a pris beaucoup de... Enfin, a eu un essor, parce qu'il y a une sorte de tendance globale à faire ça.
Malgré les visios.
C'est ça, mais des fois, on faisait des visios pour faire l'apéro.
Ouais, hein, l'apéro-visio, ouais.
L'apéro-visio en sous-vêtements.
Ouais, ou juste habiller la partie que tu vois en visio. Et du coup, après ça, il y a eu même un livre qui a été publié sur ça. Et aussi une brasserie australienne qui a lancé une ligne de bière appelée Kalsalkennit. Voilà.
Bien vu.
Et après avoir bu et mangé, il y a un mot en italien pour décrire un peu le coup de barre qui vient quand on mange... pas forcément quand on mange beaucoup, mais souvent après le déjeuner. Je ne sais pas si vous le connaissez. C'est l'abbiocco. Du coup, ça pourrait se traduire comme coup de barre, mais c'est spécifique à quand on a envie de dormir après un repas, quoi. Donc c'est un peu plus spécifique.
Je suis plein.
C'est ça. Et après, j'ai un mot en japonais. Alors, c'est tsundoku.
Ah, je sais, c'est ceux qui achètent des piles de livres à lire, mais qui les lisent jamais.
C'est ça.
Voilà, c'est maladif. C'est, moi, je suis pareil, hein. Je ne suis pas japonais, mais je suis pareil. C'est pour ça que je
moi
sais.
Aussi. Voilà. Moi aussi, complètement. Et à propos de ça, j'avais lu il y a quelque temps qu'il y a un intellectuel italien, Umberto Eco, qui est auteur du Nom de la Rose, qui avait dit aussi que le fait d'avoir beaucoup de livres qu'on n'a pas lus chez soi... En fait, c'est aussi Enfin, pour lui, c'était un moyen de dire... pas qu'on est non-savant, mais qu'au contraire, on sait tout ce qu'on ne sait pas, en fait. Et donc, il avait inventé ce concept de la non-bibliothèque, que j'ai trouvé intéressant aussi. Et après, j'ai deux mots en allemand. Un, c'est le Feierabend. Alors, toi qui as fait de l'allemand, peut-être tu t'en souviens.
C'est quoi ? C'est la veillée ? C'est le Feierabend ?
Pas vraiment la veillée.
Non. Le soir, le feu, le soir, dans la cheminée.
Alors, c'est fire, pas foyer.
Ah, je sais pas. Je sais pas.
C'est juste la fin de la journée du travail.
D'accord.
Donc, c'est pour dire, c'est la fin de la journée et maintenant, on passe à autre chose. Quoi. Donc, c'est un concept assez beau pour dire, bon, c'est fini, le travail, c'est fini et maintenant, on va boire une bière. Généralement, c'est ça. Et puis, j'en ai un autre. Alors, l'allemand a beaucoup de mots composés, donc c'est ça qui fait que des fois, il faut ajouter beaucoup de mots pour les traduire.
Mm-hmm.
Et donc, il y en a un qui est Sprachgefühl.
C'est le goût du discours ou le goût de la parole, de discuter de...
C'est le goût plutôt Sprach comme langue et pas comme parler.
Attention.
Ah, tu veux dire comme récepteur de papilles, quoi, de... Non?
Non, langue dans le sens la langue comme l'italien, l'allemand, le français.
Ah, donc être doué pour les langues, en fait.
Pas vraiment, mais Gefühl, en fait, c'est le sentiment, le ressenti. C'est le fait de savoir si quelque chose sonne bien dans une certaine langue, sans forcément... Enfin, comment dire, c'est un peu comme l'intuition ou l'avoir le sentiment de la langue. Et c'est beau parce que ça exprime le côté sentimental dans l'apprentissage d'une langue. Et aussi le fait que quand on maîtrise assez bien une langue étrangère, ben on peut entendre une phrase ou écrire une phrase et puis se dire « Non, mais en fait, ça sonne pas bien. » Et même dans la langue maternelle, en vrai. Et du coup, je trouve ça assez beau. Et puis le dernier, c'est un mot français.
Ah.
c'est les rétrouvailles. C'est un concept qui, dans les langues que je connais, n'existe pas vraiment. Ce plaisir de retrouver des personnes qu'on n'a pas revues depuis longtemps. Mmh. Et aussi, c'est beau que ça soit au féminin pluriel. Enfin, je trouve ça joli. Voilà, pour les mots intraduisibles.
Merci.
Peut-être que vous en connaissez d'autres.
Alors, l'autre jour, j'entendais Schadenfreude.
Ah oui, ça, c'est connu aussi.
Mais en allemand, Schadenfreude, c'est se réjouir du malheur des autres. Bon.
Moi, en allemand, je crois que c'est Grand Tag, le jour gris. C'est un concept allemand où c'est un jour où tout est gris, la lumière est grise, tout est gris. L'humeur aussi, quoi. Du coup, ça associe l'humeur à l'environnement, quoi. Grand Tag, je ne sais pas si ça se dit exactement comme ça,
oui,
jour gris.
Je crois que c'est ça, oui. Je ne le connaissais pas, celui-là.
Moi, j'en ai un, c'est Manyanyé en Chimaoré, une langue swahili. Et en fait, c'est un concept que je n'arrive jamais à expliquer en français, parce que ça veut tant dire quelque chose. Par exemple, on va chez un garagiste, ce n'est pas vraiment un professionnel, il fait quelque chose qui est... pas vraiment pro, mais qui tient. Et donc, on va dire que c'est magnanier, en fait. Ou alors, quand on se retrouve dans une histoire un peu compliquée, où on comprend pas trop comment ça se passe et tout ça, enfin, c'est toujours cette idée de... On a de l'incertitude. Parfois, c'est positif, parce que ça tient, et puis on fait avec. Parfois, c'est plutôt négatif. Mais sur quelque chose, voilà, qui est un peu bancal, d'une certaine manière.
On fait avec, quoi. C'est un peu
voilà.
Ça.
Et en japonais, il y a le fameux umami qui est relié à la langue.
C'est vrai. Qui est ce goût des protéines cuisinées, en fait.
Qui est un goût qu'on pourrait définir comme le fade, quelque part, en version culinaire française. Quoi. C'est un goût qui est ni salé, ni sucré, ni acide, ni amer, mais un peu tout ça. Quoi. C'est un peu, ouais. C'est presque une sensation, même, je trouve, en fait.
Ok, bon, on a fait le tour, on s'achemine vers la fin de l'émission, on va finir par un dialogue, fictionnel ou pas, à voir.
L'autre jour, je croise un copain. On se pose au café, une mauresque, un café, on se met à discuter. C'est cool, t'as l'air d'aller bien aujourd'hui. Je le vois bondir de joie.
Ben oui, Donald est passé, la guerre va s'arrêter, Manu doit avoir les fesses qui font bravo, on est sauvé.
Pourquoi ?
T'es con, Brigitte, c'est Jean-Michel. Donald, il sait, la vérité va éclater, on va être libérés.
Ah.
Ben oui, c'est la vérité, regarde sur Internet, c'est marqué. Pas étonnant que les merdias, ils en parlent pas. Eux, ils ne veulent pas que nous sachions.
Et tu penses qu'il va ouvrir le placard à peine élu ?
Ben forcément, puisqu'entre nous, il n'est pas le seul à craindre pour son grade. Ils sont tous impliqués. Donald, il a des couilles, lui, c'est un mec. Il va déclassifier des dossiers top secrets, tu vas voir. Comme son copain slave.
Ah bon ?
Mais oui, t'as pas vu son interview ? Il était très clair, la guerre c'est la faute des autres. Ils sont dans une région qui pendant 800 ans faisait partie de leur empire, et ils défendent les russophones, c'est normal. T'as pas vu la vidéo où ils se baignent à poil dans un lac gelé ?
Non mais...
Et le Covid a été fabriqué là-bas aussi par la CIA, c'est prouvé.
Je vais aux toilettes. Il me suit, et continue de me parler derrière la porte.
Puis, tu sais pas, les wokistes, ils mangent des enfants. Regarde Epstein, regarde Pididi. Là aussi, Manu est impliqué. Vive la Russie, on est tranquille là-bas.
Peut-être il faut pas jeter mémé dans les orties.
Avec moi, on touche pas aux enfants.
Ah oui, c'est sûr.
Tout est lié, tu vois pas, tout se corrompu. Au fait, tu y étais à Toulouse l'autre week-end, j'ai vu les images. Ça t'a plu, ce spectacle satanique? Comme au JO, hein?
J'hésite à sortir des toilettes. Bon, je sors. Satanique, c'est pas parce qu'il y avait Lilith que c'était satanique. Puis les chassés à la fin, et les 666 symboles de l'envoûtement sont brûlés. C'est la victoire du bien contre le mal.
N'importe quoi, t'es naïf. Ils t'imposent leur narratif, tu le gobes. Pauvre hérétique. Le Minotaure et l'araignée, c'est des symboles démoniaques. C'est gardiens de la ville. Bah, c'est Bilou et les Bilderchild et les Wokistes. Et leurs symboles, c'est l'œuvre de Satan. Et puis c'est chiant, l'art est si vaste. Il y a de la beauté dans le monde. Ils auraient pu faire avec Jésus et tous les anges. Toujours, il faut qu'ils nous ressortent ces symboles du malin.
Joli mélange. Je te rappelle qu'il y a 2 semaines, tu bouffais du curé. Tu m'emmerdes. J'ai pas envie de discuter des symboles, là. Mais toi, tu pars vraiment en couille. C'est drôle que notre échange inventé se soit terminé là-dessus. Parce que son registre de langue, ici, nous revenons au sujet du jour, est carrément messianique. Lui détient la vérité qu'il va nous enseigner. Il est prophète parmi les vivants. Sa morale est pure, droit dans ses bottes. Ainsi, nous, pauvres pêcheurs, sommes manipulés par le veau d'or, les médias mainstream, alors que Radio Courtoisie, du miel dans les oreilles, le wokisme et les LGBT, contre qui ou quoi nous devons lutter. Et le Messie, Donald ou Vladimir, nous attendons ta venue dans la gloire. Des fois, quand je lui parle, je paraphrase des proches dans ma tête. Parler à un con, plotiste, c'est un peu comme se masturber avec une râpe à fromage. Beaucoup de souffrance, pour peu de résultats.
Merci Étienne.
Merci Dominique.
C'est le mot de la fin, je crois. Hein. Ça... qu'est-ce qu'on dit normalement? Ah oui, que tout personnage ou ressemblance avec des personnes ne serait que
serait tout ça pur, fortuit,
purement
spéculatif,
voilà, fortuit,
hasardeux.
Et puis oui, on vient à la fête de la radio. C'est ça qu'il faut dire
pour la langue occitane.
Et pas que. Peut-être. Pas que.
Occitan.
La langue occitane.
La lingua utsita. Ouais,
Utsita.
On se retrouve vendredi 29 novembre au cinéma pour 2 épisodes de la série A, donc une web-série en occitan qui est passée sur France 3, France Télévisions, avec le réalisateur Amic Bedel et puis le producteur Virgile Vergue d'Andera Andera. Et puis le lendemain, on se retrouve à partir de 16h au Créa, il y aura une table ronde autour de qu'est-ce que c'est aujourd'hui, pourquoi... faire de la musique ou faire vivre la langue occitane. Et puis après, ça sera suivi de festivités avec un quiz, un défilé déguisé avec des slogans de Radio Larzac et puis deux propositions musicales de Talveg et Sisba. Donc c'est plutôt poésie musicale, me semble-t-il. Et puis on finit avec du punk rock occitan, Enloch, les Saint-Africains. Voilà. Et prochain rendez-vous pour A Voix Haute, ça sera en janvier, où on se raccroche à la thématique nationale
des Nuits de la Lecture.
Des Nuits de la Lecture, exactement, dont la thématique est...
Le patrimoine.
Le patrimoine, voilà. On va peut-être faire un truc sur le matrimoine, pour changer.
Ou
voilà.
La pierre sèche, on verra.
Ou la pierre sèche. Pierre sèche et matrimoine.
La langue est un patrimoine aussi, donc, voilà. Ou un matrimoine.
Donc restez connectés pour savoir quand on proposera l'enregistrement de cette prochaine émission. Et puis il y a d'autres rendez-vous. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook. Et puis elle a une newsletter qui est rédigée régulièrement. Vous pouvez vous abonner sur notre site radiolarzac.org. Merci de votre écoute.
Et nous rejoindre à la prochaine émission à voix haute.
Bien sûr, bien sûr.
Et puis en attendant, vous pouvez écouter celle-ci et toutes les autres sur notre site, toujours radiolarzac.org.
Il y a les archives. Merci, on remercie donc Alex, Dominique, Sophia, Abdelaziz, Marie-Angèle et Étienne.
Et Nico.
Merci à vous. Et on se quitte avec la langue encore, mais cette fois c'est de la phase.
Cadère, parfois langue de pute quand ma bouche a bu. C'est du slang qui bute avec des mots courts et rudes. Toujours langue de bois quand le discours est bourgeois. C'est le sel du quartier qui roule sur le bitume. Chaude comme la braise, elle tire à boulet rouge. C'est la langue qui traîne, c'est l'argot du 11e. C'est la main du mendiant qui réclame la tienne. La langue, a singer broken. Dans les esprits étroits qui veulent la réformer. Elle aime provoquer, alors fais-en bon usage. C'est une allumeuse qui traverse les âges. C'est les mots de la mer et des chansons à boire. Des pavés dans la gueule qui pleuvent sur les comptoirs. C'est la langue bien pendue, les paumés qui se marrent. La mémoire de ceux qu'on a rayés de l'histoire. La langue a seen a broken soul. Kader devient lourde et rappeuse quand la nuit se creuse. C'est la voix du griot qui chante l'espoir. Elle redonne le courage et la force d'y croire. C'est le cri de la lutte, la révolte solidaire. Je l'entends qui braille à perdre haleine. C'est les mots qu'on murmure à l'amour, à la haine. C'est ma langue dans ta bouche qui réclame la tienne. La langue, a seen a broken.